de la relation utile entre l'université, son centre de recherche et la conférence qui a lieu aujourd'hui.
Merci, M. Bonnard. Messieurs le Président, Monsieur l'Amiral, chers collègues, Mesdames et Messieurs, le centre de recherche de menaces criminelles contemporaines, animé par François Haut et Xavier Roffert, ou s'il en était besoin, que l'université n'est pas toujours en retard d'une guerre, et qu'elle est parfois elle aussi capable d'effectuer un décèlement précoce des besoins de la société. Les menaces criminelles ont évolué. Autrefois, le crime était généralement très facile à identifier, très facile à localiser. Et pour le juriste privatiste que je suis, je me souviens des cours de droit pénal international où on nous parlait du principe de territorialité qui permettait de régler tous les problèmes de conflit de compétences entre les souverains. Il suffisait qu'un élément du délit se soit produit sur le territoire d'un État pour que cet État soit compétent pour le réprimer. Mais je crois que tout ça, c'est un autre contexte. Le contexte n'est plus du tout le même aujourd'hui, pardon. Et les menaces criminelles, on peut le dire, ont complètement changé de nature. Et souvent d'ailleurs, nous, dans les études de droit, nous n'en tenons pas suffisamment compte. Je crois que j'ai lu un peu les travaux du Centre de recherche de menaces criminelles contemporaines. Je crois que l'on peut dire que le crime est de plus en plus furtif, de plus en plus caché, de plus en plus difficile à localiser et donc de plus en plus dangereux. Et puis je crois qu'on peut dire aussi que la frontière n'a plus trop de sens aujourd'hui et que les groupements criminels sont véritablement des multinationales, ils sont devenus transnationaux. Il faut donc déceler le crime, et je crois que c'est le thème de votre séance aujourd'hui, il faut déceler le crime de plus en plus tôt, de plus en plus vite. Et l'originalité du Centre de menaces criminelles contemporaines par rapport à d'autres institutions de notre université est qu'il s'est donné pour objectif d'adopter une démarche scientifique spécifique et à mon sens très innovante par rapport à ce que nous faisons d'habitude, nous les universitaires, pour prendre en compte toutes ces mutations. Et c'est peut-être paradoxal ce que je vais vous dire, mais je crois que cette démarche, il faut que nous l'appliquions à l'université dans son ensemble. Parce que nous aussi, nous sommes menacés, des concurrents furtifs se profilent à l'horizon, et il faut que nos programmes soient compétitifs, et il faut que nous réagissions vite par rapport à d'autres qui sont mobiles et puissants. C'est la raison pour laquelle je suis vraiment très heureux que, grâce à l'initiative de François Roux, vous avez offert, ce centre ait pu être mis en place, parce qu'il offre quelque chose d'original, et il contribue à faire de Paris 2 le premier centre d'enseignement et de recherche sur les questions de défense et de sécurité dans ce pays. Longue vie donc au MCC, c'est comme ça que je l'appelais, et bons travaux pour vous pour cet après-midi. Merci beaucoup.
Merci Monsieur le Président. J'espère que ça fonctionne, en tout cas ça fonctionne mieux que dans mon amphi à la Sorbonne, ce qui prouve que les aménagements modernes peuvent parfois avoir des résultats. Avant de laisser la parole à 14h30 à Michel Petit, et en vous priant de m'excuser parce que je vais devoir vous abandonner vers 14h45, car les crises, elles, ne respectent pas toujours les programmes universitaires.
Et les criminels ne sont pas les seuls à être sortis.
Je voulais d'abord remercier Xavier et François de leur invitation, car j'essaye de représenter ici, à la fois comme enseignant et comme consultant, une espèce de fusion d'entreprise mixte entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Mon parcours m'a amené du service public à l'espace privé, tout en continuant à m'occuper à peu près de la même chose, des affaires réservées et des problèmes de sécurité intérieure auprès de Michel Rocard dans les années 88-90, qui prouve l'ouverture d'esprit des responsables de cette formation, qui vont jusqu'à la gauche social-démocrate la plus affirmée et quasiment autogestionnaire, jusqu'à des espaces plus conservateurs et plus bleu horizon, car en la matière, le crime ne fait pas de distinction entre les appartenances politiques, pas plus qu'il ne respecte les échéances électorales. En tant que président de l'Observatoire de la délinquance, vous pouvez constater que les statistiques criminelles, pour ce qu'elles valent, et en tendance montre à quel point des phénomènes commencés il y a 15 ans ne se sont pas interrompus et d'autres apparus il y a 10 ans n'ont pas non plus connu d'évolution majeure entre la baisse des atteintes aux biens due à toute une série d'éléments, à l'augmentation massive des violences contre les personnes, ce qui a totalement restructuré la réalité criminelle de l'espace criminel français. Car pendant que nous parlons de ce qui est furtif, de ce qui est moderne, de ce qui est nouveau, la nouvelle criminalité n'a pas remplacé l'ancienne. C'est la nouvelle plus l'ancienne. Et pendant qu'on parle beaucoup du terrorisme, la bonne vieille criminalité de papa continue imperturbablement à se développer. Elle se sert même d'ailleurs du redéploiement des forces de police qui, à niveau constant ou en faible augmentation, ont été en partie renvoyées à d'autres études que celles de la criminalité classique. Et tous les jours, puisque nous faisons avec Xavier régulièrement un état des menaces, une publication très confidentielle, qui montre ce que sont les réalités du monde, pas seulement les élucubrations, les logiques d'anticipation de ce qui pourrait se produire, sur lequel on peut toujours avoir un débat plus ou moins ouvert, sur vous inventez beaucoup, vous êtes des catastrophistes, nous sommes des représentants de la réaction pure visant à empêcher les manifestations légitime des classes ouvrières opprimées, je ne fais que citer le monde diplomatique, cette phrase n'est pas de moi. En fait, il y a une réalité tous les jours, régulièrement et de manière très publique, un peu partout dans le monde, de nouveaux dispositifs criminels ou d'anciens dispositifs criminels se développent, se remettent en fonctionnement et utilisent la bonne vieille escroquerie plutôt que la cybercriminalité. On sait que les dispositifs les plus récurrents et les plus habituels sont ceux qui sont les plus facilement contournables. Il suffit de lire les travaux, par exemple, sur la sûreté ou la sécurité aérienne. D'ailleurs, un nouvel opuscule sur cette question vient de sortir, qui montre à quel point les problématiques de gesticulation, même quand elles sont nécessaires, ne résolvent pas la réalité des problématiques criminelles, et que s'il faut faire de la communication en matière de sécurité, rien n'empêche aussi de faire ce qui fonctionne bien, c'est-à-dire le bon du renseignement, l'anticipation, le décèlement précoce, bref, ce que sont les thèmes de cette conférence. En fait, l'expérience a montré aux policiers comme aux criminologues, aux experts comme aux utilisateurs des services, à quel point il fallait sortir des postures et des problématiques purement idéologiques visant à expliquer qu'on peut tout faire sans jamais rien faire, qui ne soit aux marges de la légalité officielle, qu'il faut ne rien faire car ce serait se mettre en situation de remise en cause, et pour rappeler une histoire que contait Robert Baer, qui fut le patron de l'agence centrale de renseignement américaine dans la zone des trois frontières durant la période talibane, et qui expliquait que pendant des mois, il demandait régulièrement à la CIA d'obtenir enfin un traducteur de Pashtun, car dans ce territoire-là, ça peut être utile, c'est une langue assez répandue, et le fait de savoir ce qu'il se disait en Pashtun pouvait être utile. Donc, il réclamait, la CIA est une grande bureaucratie, et donc il pouvait toujours réclamer dans une sorte d'indifférence générale, jusqu'au jour où enfin, un beau matin, il apprend l'arrivée d'un hélicoptère vers Kandahar, Peshawar. Et donc l'hélicoptère arrive, il est très content, et deux jeunes femmes habillées dans la dernière combinaison Armani, blondes aux yeux bleus et avec une petite mallette, probablement des escarpins, parce que ça n'est pas précisé dans le récit, mais on le présuppose bien, enfin on l'imagine, sortent de l'hélicoptère, créent une mini-émeute locale, car c'est assez rare, ils les protègent immédiatement par la première burqa venue, les jettent dans la jeep, les amènent au centre de commandement local, une sorte de grosse villa, et leur montre une pile invraisemblable de documents non traduits, et elles le regardent toutes deux avec un air totalement avide, et disent « Ah non, on n'est pas venu pour traduire Pashtun, nous on vient parce qu'on est des représentants du programme anti-harcèlement sexuel de la CIA. » Ça n'est pas une blague, c'est une anecdote, donc une histoire vraie, vécue, pour montrer ce que peuvent être les logiques bureaucratiques par rapport au pragmatisme naturel de ce que devrait être le renseignement ou décèlement précoce. Ceux qui ont lu les divers rapports des commissions parlementaires d'enquête sur le 11 septembre savent bien que, à quelques détails près, tout ce qui devait se savoir était connu. Tous les éléments qui auraient pu permettre d'anticiper, de prévoir et donc d'empêcher les événements du 11 septembre étaient à portée de main, et que seul un interdit culturel et un interdit bureaucratique pratique, l'échange de renseignements, le fait d'admettre des choses difficilement crédibles, ont créé ça. Sherlock Holmes, l'auteur de Sherlock Holmes, expliquait que en matière criminelle, ce qui est une fois l'impossible supprimé, ce qui restait même invraisemblable devait être la vérité. En matière de terrorisme ou de renseignement, pour des raisons curieuses, ce qui est invraisemblable est impossible. Et donc, nous avons pris l'habitude, la plupart de ceux qui travaillent dans les services et la plupart de ceux qui lisent les notes des services, d'admettre qu'après tout, on pouvait s'interdire de croire à des choses invraisemblables parce qu'après tout, c'était trop compliqué à gérer. Alors, dans les pays latins, la France par exemple, en général, on refuse la réalité, on a un déni de réalité, parce qu'il n'y a pas de raison que ça arrive ou que ça nous arrive à nous. Et après, on vous explique qu'on le sait déjà et que de toute façon tout est prêt et qu'il n'y a pas de raison de s'occuper de choses dont les professionnels s'occupent déjà. Ça, on vous explique que ça n'est pas vrai parce que ça ne peut pas arriver. Dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, on est plutôt dans le bean counting. On ne vous explique pas que c'est impossible, on vous explique que c'est trop cher. Et donc, vous n'avez pas la rupture culturelle visant à passer des heures, des jours ou des semaines à expliquer à des gens que des choses possibles sont possibles et qu'elles risquent d'arriver. Aux États-Unis, on vous dit non, non, parfaitement convaincu, mais vous comprenez, on a fait une analyse, rappeler la voiture qui prend feu, ça coûterait 3 milliards, indemniser les victimes de la voiture qui prend feu, ça prendrait 300 millions, donc il n'y a pas de raison de rappeler la voiture qui prend feu. Et c'est cohérent, c'est logique. Notre logique est tout à fait différente et elle est beaucoup plus complexe. Il y a un deuxième problème qui existe dans nos pays, c'est l'effet de swing. On passe rapidement de la négation du réel à tout devient terrifiant. Il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus d'espace intermédiaire. Globalement, c'est non, on ne va pas se mettre en sécurité car rien ne peut nous arriver, ou le vol de chewing-gum avec préméditation devient un acte terroriste particulièrement grave, qui est le début du prémisse du commencement de quelque chose. Et donc l'incapacité à admettre la réalité, l'incapacité à admettre les niveaux de réalité, le fait de prendre en compte les zones de gris entre le blanc et le noir, est un des problèmes second qui apparaît quand difficilement on vient de passer la première étape qui est faire admettre la réalité. Et je crois que toute la problématique qui existe, à la fois dans le décèlement précoce, mais aussi dans la gestion de la crise, relève de ce niveau, c'est-à-dire admettre les zones de gris, admettre les événements perturbants, admettre les complexités de la réalité et faire en sorte qu'on soit en situation d'y répondre. Car après tout, se préparer à la crise, anticiper la crise ou gérer la crise, ça ne résout pas un problème fondamental, qui est que se préparer à la crise, ça n'empêche pas les crises de survenir. Ça permet éventuellement d'y survivre. Et il y a un lendemain à la crise. Et le lendemain de la crise, c'est la reprise de l'activité, c'est de savoir ce qu'on fait. Pour prendre un exemple, il y a aujourd'hui un débat non traité en France, et qui est un débat où la plupart des experts ont des désaccords majeurs. Premier élément du débat, c'est qu'il y a une bombe dans le métro. Un sujet qui n'est pas nouveau, on en a déjà eu un certain nombre. Il n'y a aucune raison qu'on n'en ait pas un jour d'autre. Notre relation récente avec le gouvernement de la République islamique d'Iran nous ouvre des perspectives intéressantes sur la réorientation du service public du transport, car on n'espère que pas, mais c'est une option, on ne peut pas l'ignorer, et dans nos métiers ou dans les métiers que nous côtoyons, il faut prendre ceci en considération. Bien, si ce dispositif avait lieu et qu'une bombe explose dans le métro, il y a deux solutions. Solution numéro un, on arrête le trafic et on met tout le monde dehors. Et vous me direz, c'est assez facile, comment mettre tout le monde dehors? Il n'y a pas de raison de ne pas mettre une deuxième bombe juste à la sortie d'une grande gare ou d'un grand centre d'interconnexion modulaire, comme on en construit désormais, pour faire plus de victimes. Option 2, on n'arrête pas le trafic et donc on arrive à mettre en moyenne 500 à 600 000 personnes jusqu'à chez soi, plus si c'est vers 17 ou 18 heures, mais on a le risque qu'une deuxième bombe explose dans une deuxième rame. Vous voyez, ce n'est pas une solution simple, car dans les deux cas, il y a des effets pervers à la solution qui est prise, et qu'on a pour l'instant des postures sur, après tout, quelle est la meilleure des deux solutions, sachant qu'aucune des deux n'est bonne. Les Anglais ont réalisé un petit film extrêmement édifiant sur « Et si une petite bombe atomique explosait à Londres, une bombe sale ?» Et donc le film vous montre le respect absolu du protocole prévu pour la gestion de la crise dans ce cas précis, avec une parfaite plan de gestion de crise menée de manière extrêmement pratique et intelligente par des gens qui, en quelques minutes, des troupes arrivent, les dispositifs modulaires sont mis en place, des milliers de personnes commencent à évacuer le centre de Londres, et ils attendent gentiment jusqu'au moment où on leur dit « Écoutez, voilà, c'est assez simple, il va falloir vous déshabiller ». Donc prendre une douche, qui va prendre un certain nombre de minutes, vous ne pourrez garder aucun de vos effets personnels car ils sont tous contaminés. Et pendant ce temps-là, par ailleurs, on ne peut ni boire ni manger. Et tout d'un coup, la réalité rencontre le plan de gestion de crise, c'est qu'évidemment, une partie considérable des gens, un, ne veulent pas se déshabiller, deux, veulent rentrer chez eux, trois, ne veulent pas perdre leur alliance, leur bijou de famille, pris au sens technique du terme, ou quoi que ce soit, et donc commencent à vouloir briser les cordons de police ou de militaires. Et la question qui est posée à ce moment précis, c'est est-ce qu'on tire sur les victimes? Pour empêcher que, on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs, et on se rend compte de l'incapacité que nous avons à maîtriser un vrai plan de gestion de crise par rapport à une simulation de gestion de crise à la française, où de la page 1 à la page 344 du manuel, tout se passe comme prévu. Sauf que l'essentiel dans la gestion de crise, c'est que rien ne se passe comme prévu. Rien. Et nous n'avons pas réussi encore à passer ce cap, car aujourd'hui encore, dans toutes nos simulations publiques et officielles, nous sommes dans « il n'y a pas d'impondérable ». En contrepartie, il y a quelques temps, avec Xavier, on a organisé une simulation de crise dans un très grand centre où le REM ou GIGN, vous choisirez, ça n'a pas d'importance, devait intervenir. Et donc, il y a eu une prise d'otage, une négociation, tout ceci se passe selon les règles de l'art, sous le regard attentif des opérateurs. Et le patron du service en question se rend compte que, par confiance, parce qu'ils sont dans un univers moderne, neuf, organisé, structuré, ces agents, ces hommes, n'ont pas branché leurs groupes électrogènes qu'ils ont pourtant amenés, mais se sont branchés sur l'électricité normale. Et donc au moment du lancement de l'opération libération des otages, on coupe l'électricité, sauf que nous, on a coupé l'électricité non seulement pour les preneurs d'otages, là où ils avaient, mais aussi pour le centre de commandement. Et donc évidemment, il y a eu 3 minutes de blanc total. Ce qui a montré à la fois ce que pouvait être une vraie simulation avec un imprévu, et qui a amené à montrer d'ailleurs la capacité qu'ils avaient à anticiper ce type d'événement. Ils ont eu 3 minutes de blanc total et ça a été une panique indescriptible, mais le négociateur, celui qui était au téléphone et qui continuait à parler, a eu l'intelligence, l'intuition, l'expérience, vous choisirez, de dire au preneur d'otage « Ah, il n'y a plus d'électricité chez moi et chez vous c'est comment ?» Comme s'il était lui-même la première victime d'un événement parfaitement imprévu et non maîtrisé qui le prenait au dépourvu, ce qui était à la fois vrai, mais il a transformé ce qu'était une logique de « après tout ça peut arriver, comment je peux me servir d'un événement imprévisible pour en faire quelque chose d'utile dans le cadre d'une mission qui est une opération dure de libération de base ?» Eh bien nous sommes exactement dans le même processus. Ce qui intellectuellement se fait ici, ou ce qui se fait dans le centre de recherche, ou ce qui se fait dans la recherche universitaire, sont des instruments qui nous permettent, ou qui doivent nous permettre d'avoir l'esprit suffisamment ouvert pour transformer l'imprévisible, l'impondérable, quelque chose qui dépasse tout à fait, y compris ce qu'on aurait pu imaginer, en instrument de réponse à la crise pour y survivre, parce que le lendemain de la crise, il faut revenir à la période normale, il faut regagner de la production, il faut regagner la confiance des utilisateurs quand on est dans les transports, etc. Et c'est pour ça que ces réunions ou ces travaux sont importants. Ce n'est pas parce qu'il y a un univers universitaire déconnecté du réel et stratosphérique qui dirait des choses que personne ne croirait jamais et qui pourrait régulièrement, tous les 6 mois ou tous les 3 ans, dire « on vous l'avait bien dit, on l'avait bien écrit ». Ce qu'on fait régulièrement, hein, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, vous savez, c'est un peu comme dans les tontons flingueurs, vous savez, l'allemand des tontons flingueurs sulfate les frères Wolfoni à la sortie de la clinique pour la 18e fois, sans aucune raison, et il se tourne vers son ami amant dans la voiture, et il lui dit « je ne dis pas que c'est juste, je dis que ça soulage ». Donc évidemment, quand on explique qu'on l'avait bien dit, qu'on l'avait bien écrit, qu'on est très content que ça soit arrivé, on n'est pas toujours très content que ça soit arrivé, mais ça aide quand même dans notre univers à nous, on le fait parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Mais sur le fond, tous les outils de réflexion, tous les outils de recherche, tous les outils qui vont chercher dans la philosophie, tous les outils qui vont chercher dans l'analyse phénoménologique, tous les outils qui vont chercher dans la compréhension des phénomènes qui ont été étudiés depuis longtemps, sont des outils pratiques, pragmatiques, qui ne sont pas déconnectés de la réalité, ce sont des instruments pour la réalité. Et c'est ceci qui est important, je crois que c'est ceci qui ouvre et qui explique la nature et la logique de ce type de séminaire, comme la nature et la logique de ce que nous écrivons les uns et les autres, sur des thèmes parfois qui semblent très éloignés de la réalité, mais qui y ramènent toujours, parce que nous voulons en faire des instruments pratiques d'anticipation, de gestion et de sortie de la crise, de retour d'expérience, de capacité d'adaptation, bref, de survie. Et je crois crois que c'est comme cela que nous essayons de comprendre ces problématiques. Voilà, et maintenant que je suis pile dans les temps, en ayant respecté le programme à l'heure sous le vigilant de Xavier, je donne la parole, si le programme est juste, à Michel Petit.
Qui est là.
Il y a même droit à un micro.
Oui, merci.